Chapitre 4. La vengeance. Pendant que nous essayons, baron, de délivrer des touches de ces chaînes, nous avons vu de loin un homme. Ce groupe d'hommes que nous formions de bon matin au bord de cette rivière a dû inquiéter cet homme, car il s'est retourné comme un chat prudent qui voit le danger et a commencé à repartir dans l'autre sens.
« On ne s'en va pas comme cela, mon garçon !»
a dit Saint-Germain. Et il a armé son fusil. Il allait lui mettre une balle au beau milieu des deux épaules quand la varennerie lui a dit
« Laisse, ce n'est pas un espion. C'est Couillard, Couillard de Marchecieux. Il est horloger. Je le connais, c'est un royaliste. C'est peut-être Dieu qui nous l'envoie, car un ouvrier horloger doit toujours avoir un outil dans sa poche. Il va probablement nous donner le coup de main dont nous avons besoin.
Hé hey, Couillard »
a-t-il crié.
Hé hey, hé hey, nous sommes des amis !»
L'horloger s'est arrêté, et deux secondes après, la varennerie nous l'a amené.
« Eh bien !»
a dit la varennerie.
« Mon brave Couillard, nous avons besoin de vous ce matin. »«
De moi, monsieur ?»
a répondu l'horloger, une créature de douceur et de paix, qui se voyait au milieu de nous tous, appuyée sur des fusils.
« Je ne vois pas très bien comment je pourrais... »
« Tenez, Couillard !»
a dit la varennerie.
« Écartez-vous un peu, messieurs !»
Nous lui cachions le bateau et des touches. Quand nous nous sommes écartés, il a montré à l'horloger le chevalier avec ses chaînes.
« Regardez !» a continué la varennerie. « Voilà notre travail et le vôtre. Vous devez certainement avoir des outils sur vous. Eh bien, mon fils, limez-nous toute cette ferraille-là »
Ce travail a duré une moitié de journée. Jamais montre ou horloge, a-t-il dit, ne lui avait donné plus de travail que ces maudites chaînes. Cela a été dur, mais il y est arrivé. Dès que le chevalier des touches a recouvré sa liberté, il nous a remerciés avec courtoisie et nous a serré la main à tous. Quand il a pris la mienne, comme à l'un des 12, il m'a reconnu sous mes habits d'homme. Il ne s'en est pas étonné. Qui s'étonnait de quelque chose à cette époque ?
Messieurs, nous a-t-il dit. Le roi vous doit un serviteur qui va recommencer son service. Ce soir, j'aurai repris la mer. Il faut nous séparer. Mais, dans 2 heures, nous pouvons nous retrouver à ce moulin à vent qui est ici, à votre droite. Je vous y donne rendez-vous.
C'est le moulin bleu,
a dit la varennerie. Bleu, en effet, a dit sombrement des touches. Car c'est dans ce moulin-là, messieurs, que les bleus m'ont pris par trahison.
J'ai juré dans mon cœur que je me vengerai.
J'ai juré aussi, a-t-il ajouté d'une voix éclatante, que je vengerai la mort de Monsieur Jacques. Avant que ce soleil disparaisse à l'horizon et que je disparaisse dans la brume des côtes vers l'Angleterre, je vous donne ma parole de chouan que le moulin bleu sera devenu le moulin rouge. Je le regardais pendant qu'il parlait. Jamais il n'avait été plus l'homme de son nom de guerre, la guêpe. La guêpe qui tire son dard et qui veut du sang. La varennerie a répondu
« Nous irons tous, n'est-ce pas, messieurs ?»
Nous étions tous d'accord. Nous nous sommes séparés en prenant des sentiers différents. Je suis parti, moi, avec juste le Breton. Nous sommes arrivés les premiers au lieu du rendez-vous et nous sommes restés à distance du moulin à vent, attendant nos compagnons et probablement avant eux, des touches. À part la muraille du moulin et ses ailes, tout le moulin était d'un bleu joyeux, qui paraissait plus clair dans le bleu foncé du ciel et dans cette chaude lumière. C'était le moulin bleu, c'est-à-dire le moulin qui n'était pas blanc, le moulin patriote. Tout à coup, on a entendu un pizzicato de violon par la porte à moitié ouverte. C'est à ce moment que Destouches est arrivé. Quand il a vu que nous étions là, juste le Breton et moi, il nous a fait le signe du silence. Il était sans armes et avait les mains vides. Il a ouvert la porte du moulin et est entré. Nous n'avons plus entendu le pizzicato. Les 10 autres sont arrivés et nous ont aperçus.
« Nous venons au rendez-vous !» a dit la varennerie. « Où est le chevalier ?»
Il sortait du moulin. Il tenait par le cou, dans ses 2 mains, le meunier du moulin bleu, grand et gros, qu'il traînait après lui dans la poussière. Quand Destouches est apparu, Nous avons cru que c'était fini, que le meunier était mort. Mais non, le meunier s'était évanoui sous les griffes de des touches.
« Messieurs, » a-t-il dit, « voici le traître, le Judas qui m'a livré aux bleus. J'ai demandé aux 12 qui m'ont délivré d'être les témoins de la justice. Moi seul, je me charge du châtiment. »
D'une main, il a pris la tête de taureau du meunier, puis il l'a mise entre ses deux genoux. Le meunier avait une ceinture. En voyant que le chevalier prenait cette ceinture de son autre main, nous nous sommes dit « il va l'étrangler ». Mais non, l'homme, toujours entre les genoux, il a attrapé une des ailes du moulin qui passait et l'a arrêtée.
« On dit, monsieur Juste le Breton, que vous avez un des plus forts poignets de toute la région. Pourriez-vous tenir une seule minute cette aile de moulin que je viens d'arrêter ? » a-t-il demandé.
Juste l'a tenue pendant le temps que des touches a attaché le meunier, qu'il avait couché sur toute la longueur de cette aile avec la ceinture. Quand Juste a lâché l'aile, l'aile a repris son grand mouvement mesuré et silencieux.
Ah, c'était un spectacle comme on n'en avait jamais vu que cet homme lié sur son aile de moulin qui tournait.
Le sang, qui menaçait de lui faire éclater le visage, retombait le long de son corps. Il devenait tout blanc. Des touches a eu un mot de marin.
« C'est le mal de mer qui commence », a-t-il dit cruellement.
Le meunier, qui avait d'abord ouvert les yeux, les a refermés. Le malheureux avait commencé par crier, mais bientôt, il ne criait plus. Je crois vraiment qu'il souffrait horriblement. Il suait de grosses gouttes.
« Pour Dieu, chevalier, abrégez un pareil supplice », ai-je dit.
Et je lui ai tendu mon fusil, à lui qui était sans armes.
« Pour Dieu donc, et pour vous, mademoiselle », a-t-il répondu. « Vous avez fait assez pour moi cette nuit, pour que je ne puisse rien vous refuser. »
Il a tiré un coup de fusil quand l'aile du moulin est passée devant lui et le meunier a été percé dans la poitrine. Le sang ruisselait sur l'aile blanche. Il n'avait pas menti, le chevalier des touches. Il venait de changer ce riant et calme moulin bleu en un effrayant moulin rouge. S'il existe encore, ce moulin qui a été le théâtre du supplice d'un traître, dont la trahison a dû être terrible pour rendre le chevalier si implacable, on doit encore l'appeler le moulin du sang. Mais le chevalier n'était pas encore calmé après cette vengeance et ce supplice. Nous quittions le moulin pour retourner les uns à Touffe-de-Lys, les autres où ils voudraient, puisque nous avions réussi notre seconde expédition. C'étaient les derniers pas que nous faisions ensemble. Déjà loin sur les routes, je me suis retourné et j'ai jeté un dernier regard sur le moulin. J'ai cru voir de la fumée sur son toit pointu. Je l'ai dit aux autres.
« Il n'y a que le feu qui purifie », a répondu des touches.
Et il nous a appris qu'il avait mis le feu à l'intérieur du moulin. Le feu avait couvé depuis que nous étions partis. Quand la flamme s'est élevée, le chevalier a dit en la regardant
« On allume des cierges pour les morts. Voici mon cierge pour Monsieur Jacques. Cette nuit, dans les brumes de la Manche, j'aimerais en suivre longtemps la lumière. »